Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 13 février 2010. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie, à 15h du reggae avec Zarma Farai, et à 17h, FMR, c'est de l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le plumage de Cupidon que vous attendez tous.
Ces événements se déroulent entre midi et 13h.
Précédemment dans le supplément week-end.
Dans les bonus de Volteface, je sais plus, enfin c'était à l'époque.
Ok. C'est, ça n'a pas l'air d'être un documentaire inédit de toute façon. Donc,
c'est un documentaire mais... sur le rapport entre John Woo et la cuisine.
Ah ouais.
Oui, c'est pour ça que ça s'appelle Une balle dans l'assiette.
Et mais.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport. Ultimatum. Das Creek. Et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour Thomas.
Bonjour,
voilà.
Daskritch.
Alors, un samedi 13, c'est presque la porte du malheur ou demain ça va être la super joie?
Ni l'un ni l'autre.
D'accord, ok, donc aujourd'hui ça va être morose, premier juré. Aujourd'hui on va essayer de laisser du temps à du sport pour qu'il ait le temps de parler des Jeux Olympiques.
Ah oui, ça, la cérémonie.
Irlande-France aussi.
Il y a eu la cérémonie hier, l'allumage de bougies. On en a bien besoin en ce moment, vu le froid qui règne.
Ouais, oui, bon, enfin voilà quoi. Enfin, eux, ils ont plutôt besoin de neige. Mais ça, c'est une autre histoire et un autre gag. Néanmoins, aujourd'hui, on va commencer avec du lourd, du tatoué. Non, pas du tatoué,
non,
mais du sans
là.
La poudre, du.
Ah oui.
Sans le cuir.
Du poussiéreux.
Non, pas tant que ça, hein, c'est l'hiver, hein, après tout. Faut pas oublier.
Bon, bah, du par-dessus neigeux alors.
Eh merde, c'est pas la bonne intro, voilà, ça nous arrive, hein, on est en direct et on a la mauvaise blague. Et voilà, une scène ambiance. Puisqu'on part pour l'ouest. L'ouest des pionniers, l'ouest des sans foi ni loi, l'ouest des indiens et l'ouest des hors-la-loi. Ça fait hyper longtemps que je voulais interviewer Bruno et on a lu. Et finalement, bah voilà, le week-end dernier, et bah on a eu la chance de le pécho comme ça, lors de sa dédicace qu'il a fait à la librairie Gilbert Joseph, pour donc le deuxième tome de Junk. Junk, c'est une histoire qui, je vais dire, commence un peu avant l'histoire. C'est une bande de desperados qui se reforme après une longue séparation pour retrouver le mythique trésor de guerre des sudistes. Puisque on dit que les sudistes sont partis et pas que en fameux faux dollars, mais c'était les vrais dollars qui valent de l'or. Cela fait 15 ans que la guerre de sécession a pris fin, et autant de temps que tous les rascals de l'Ouest ont cherché l'or des confédérés. Inutile de dire que tout le monde croit désormais plus à une légende qu'à une réelle cavalcade dorée. La redécouverte d'un journal a fait se reformer les Jersey Cow Punchers. Mais les temps ont passé, chacun a vieilli, et dans les neiges des grandes rocheuses, d'autres bandits occupent le terrain. C'est un western crépusculaire, mais loin des clichés terreux et écrasés de chaleur. C'est dans le froid du manteau neigeux que leur aventure pourrait bien se terminer. Nicolas Potier en est le scénariste, Bruno le dessinateur. Le deuxième tome s'appelle Payback, et vient de sortir chez Très Étrange, et clôt donc le diptyque Junk. Et donc, il s'agit de Bruno que nous avons rencontré il y a samedi dernier, voilà, et cette interview, elle aussi, sa petite histoire, on vous la racontera après. Bruno, bonjour.
Bonjour.
Dessinateur extrêmement talentueux de plein de BD, on va les citer tout à l'heure, mais la première chose qui m'interpelle, c'est quoi cette fantaisie, le tréma sur le U? Tu pouvais pas faire comme tous les nordiques, barrer ton O? T'es quand même pas Sacha Baron Cohen, même si physiquement tu ressembles pas mal, là.
Ouais, non, le tréma, c'est plus un clin d'œil aux origines autrichiennes de ma mère. Voilà, et puis, parce que j'aime bien cette tradition du pseudo dans la bande dessinée, donc voilà, j'ai pris mon prénom et j'ai rajouté un umlaut, ça me faisait un pseudonyme. tout en me permettant de me faire appeler par mon prénom parce que je me voyais mal signer sous mon nom de famille, parce qu'après, bon, c'est sans doute dû à un traumatisme de l'école primaire, mais j'aime pas ce côté on t'appelle par ton nom de famille, tu vois. Genre, hey, c'est toi Thielleux, c'est mon nom de famille, donc voilà. Donc non. Donc on m'appelle Bruno, et puis c'est aussi simple comme ça.
Ce qui est caractéristique de toutes tes œuvres, c'est ton dessin qui est à la fois épuré et brouillon. Alors c'est du génie ou de la flemme ?
Ah, tu trouves ça brouillon ?
Je dis ça en déconnant, hein, c'est juste de la méchanceté pure et gratuite. Moi j'ai fait mes classes chez Marc-Olivier Fogiel.
Ah d'accord, je comprends mieux. Ouais non je sais pas, moi je qualifierais mon dessin de synthétique plutôt que de brouillon. Mais Et après, si tu veux, en gros, moi j'ai tendance à dire que vu que je suis pas un très bon technicien en dessin, j'essaye de faire avec mes petits moyens techniques un truc qui a quand même un peu de patate. Enfin bref.
Bon alors dans ce cas-là, la question lèche. Comment pourrait-on t'intituler ? Le Yves Chaland des années 2010 ou le Serge Clair des courbes ?
Ben, moi je préférerais la référence à Chaland, même si c'est très présomptueux. Ouais. Non, mes références en fait elles sont un peu plus vieilles, c'est plus la BD franco-belge ultra classique, Maurice, Peyot, Hergé. Chaland en fait j'ai découvert ça hyper tard lors d'une expo à Angoulême, ça doit être la seule que j'ai réussi à voir en 10 ou 15 ans de participation à Angoulême. C'était une expo Chaland qui a eu lieu je sais pas il y a 4-5 ans. Et parce qu'avant moi je prenais Chaland pour un truc un peu neuneux, pas très intéressant, enfin. Et puis en fait dans l'expo je me suis rendu compte que ah ouais c'était vachement bien en fait ces trucs que je disais dans la Strapi, à savoir Adolphus Clar notamment. Ouais.
Alors en se cantonnant juste à la surface de tes albums, alors ton style en ligne claire a tendance à rendre mignon un petit peu l'histoire la plus sombre. Et justement est-ce que les scénarios de tes scénaristes doivent vraiment s'adapter à ton style ou pas du tout, tu prends les scénarios comme ils viennent et c'est juste ton trait qui fait le reste?
Ouais non je prends les scénarios, enfin les scénarios comme ils viennent. Je me pose pas vraiment la. Enfin j'adapte pas mon style au scénario. Après c'est vrai que inévitablement mon style il amène un peu de second degré ou de légèreté dans une histoire qui serait sans doute plus glauque si elle était traitée de manière réaliste. Mais ça depuis Conrad et les Innommables, enfin il n'y a pas d'autres exemples qui me viennent à l'esprit, mais c'est vrai que voilà des récits un peu plus durs traités avec un graphisme grotesque ou gros nez on va dire. Ça fait quelques temps qu'on peut le faire, donc c'est cool.
Oui, alors toujours à propos de ton style en ligne claire, alors au fil des albums, est-ce que tu trouves l'épure de plus en plus facilement ou comme tu changes de genre, est-ce que tu dois refaire des réglages assez fréquemment au niveau graphique ?
Non, je continue à creuser ce sillon d'un style à la fois synthétique et puis épuré. Mais c'est plus parce qu'en fait, quand je me retrouve à devoir trop remplir des cases, je suis un peu perdu à mettre trop de détails et je trouve que mon style il perd un peu de sa force, même si ça m'arrive évidemment assez rarement d'en mettre trop dans les cases.
Attention, la question où on casse toute la biographie. Alors, entre Junk, Nemo, Michel Swing, Voltige Ratatouille, bon, ça c'est une œuvre qui est un peu dans les débuts, je vais dire. Commando Colonial, Biotope et Inner City Blues. Tu as plein de séries, mais on sent que tu n'as pas trop envie de t'attarder. Est-ce que c'est un choix de ne pas dépasser les 4 tomes ou parce que c'est justement tu as envie de connaître le plus d'univers graphique, à illustrer graphiquement?
En fait, la variété d'univers traités, c'est vraiment le hasard des propositions de scénario. Et après, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est des formats assez courts, des diptyques ou au maximum un triptyque. Mais ça, c'est le hasard des propositions. Puis il y a aussi une autre raison, c'est que en tant que lecteur, moi, j'aime bien les séries assez courtes. Voilà, j'aime bien quand ça se finit, quand on rallonge pas la sauce et que ça devient indigeste. Donc je pense qu'en 2 ou 3 tomes, ça suffit pour raconter une bonne histoire.
On est donc sur plein de thèmes différents. Donc Junk, c'est du western crépusculaire sous la neige. Nemo, c'est une reprise de 20 000 lieues sous les mers. Commando Colonial, on est dans du polar de guerre. Biotope, c'est de la science-fiction. Qu'est-ce qu'il faut pour te faire craquer pour un scénario ? Est-ce que c'est parce que c'est un copain à toi ou bien parce que ah ouais ça te tripe et ah ouais tu le verrais bien le travailler comme ça avec ton style?
C'est un peu les deux en fait. C'est à la fois le scénar en lui-même et puis c'est la rencontre avec le scénariste parce que vu que faire une BD ça, enfin moi ça me demande 8 ou 9 mois, C'est vrai que mieux vaut bien s'entendre avec le scénariste avec qui on bosse, parce que enfin, jusqu'à présent j'ai plutôt eu de la chance, mais c'est vrai que je pense que ça peut devenir vite cauchemardesque si on n'est pas sur la même longueur d'onde et qu'il n'y a pas un peu d'amitié qui s'installe. Et jusqu'à présent, que ce soit avec Apollo, Pascal Jousselin ou Nicolas Potier, bon, ça a toujours été le cas. Donc je privilégie la rencontre presque avant le scénar. Ouais.
Donc le fait que ça soit principalement des personnages qui s'interrogent sur eux-mêmes et où l'action n'est pas la chose principale mais plutôt le dialogue, ça n'est absolument pas de ton choix, c'est juste que t'as pris des scénaristes comme ça.
Ouais, non, encore une fois, c'est comme la variété des univers, c'est... Ouais, c'est le hasard.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans Biotope, on sent l'influence des intérieurs par rapport au film 2001 de Stanley Kubrick. Inner City Blues, il y a toutes les références à Blaxploitation. Tu aimes bien les films des années 60-70. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui, graphiquement, ne se retrouve plus, justement, dans les productions actuelles ?
Après, c'est vrai que j'aime bien les... Moi, j'aime bien l'univers Blaxploitation, mais plus du point de vue de la musique que les films en eux-mêmes, parce que les films Blaxploitation sont quand même tous assez mauvais. Quoi. La qualité de ces films, elle est un peu inversement proportionnelle à la qualité de leur bande-son.
On le dira à Quincy Jones.
Parce qu'il a... Pourquoi Quincy Jones ? Oh. Ah oui, il a fait Dollars et compagnie, ouais, je les ai pas vus ceux-là. S'ils sont aussi mauvais que les Superfly et autres Shaft.
Et encore, t'as pas vu les téléfilms de Shaft.
Alors moi j'ai des questions sur Junk en fait. Comme c'est une référence au western, finalement, est-ce que c'était pas un crève-cœur de ne pas cadrer qu'en ratio 16-9?
Bah en fait ouais, c'est marrant que tu en parles parce que à la moitié du tome 2, alors je sais pas si ça se voit beaucoup, mais J'étais un peu perdu, enfin pour tout dire je m'ennuyais un peu et puis du coup je me suis dit tiens je vais passer en 5 strips alors que jusqu'à présent tout le tome 1 et la moitié du tome, enfin et le premier tiers du tome 2 c'était du 4 bandes classique et du coup je me suis dit oh, tiens c'est con, on est dans un format assez grand puis avec mon style très synthétique je pense que 5 strips ça va pouvoir passer et puis ça permettait de cadrer en 16/9 de manière plus systématique. Et donc voilà, et puis le résultat est, de mon point de vue, est très probant. Après, le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir eu cette idée au début du tome 1. Mais bon, fallait bien tenter le truc à un moment donné, quoi.
Et justement, tant que tu parles de ton style, du découpage sur Junk, on sent que tu as voulu éviter les références à Léon systématiques pour tes cadrages. Alors, est-ce que c'était pour éviter les clichés ou parce que justement, le découpage de BD ne le permettait justement pas ? Bon, après, à part pour la deuxième moitié du tome 2.
Ouais bah je sais pas, je pense que le découpage BD il doit le permettre mais je pense qu'en tant que dessinateur on a tous des automatismes en termes de cadrage et de mise en scène, ce qui fait que moi mes automatismes ils sont peut-être pas trop influencés par Léon et peut-être plus par des trucs plus classiques comme Hergé ou la BD franco-belge que je citais. Donc voilà c'est pour ça, mais ouais il aurait peut-être fallu que je fasse un peu plus d'efforts de ce point de vue là, ça aurait été pas mal.
Alors, puisque tu as un style de dessin qui est bien à toi, quand même, j'ai noté une petite erreur, pardon, excuse-moi. Oui, planche 75 de Michel Swing, il manque un boulon sur la suspension avant gauche. Tu n'es pas très réaliste, c'est parce que pour toi, l'émotion qui compte sur le dessin, c'est justement ton trait jeté, ou parce que finalement, se prendre la tête avec les planches à boulon, ça, non seulement c'est incroyablement chiant, mais en plus ça fait perdre toute l'âme à ton dessin.
Non, ça fait peut-être pas perdre l'âme, ça peut être intéressant. Après, c'est vrai que il doit y avoir une partie de fainéantise de ma part. Et puis, moi je trouve que l'essence de la bande dessinée, c'est dans le découpage et dans la narration. Après, la mise au propre et le style graphique, c'est juste un enrobage. C'est ça. Et donc, Ce que j'essaie de dire péniblement, c'est qu'en gros, moi, j'aborde la documentation pour créer un univers qui soit juste crédible. Après, pousser le degré de réalisme jusqu'au nombre de boulons sur tel avion ou sur telle bagnole, ça m'intéresse pas trop parce que je pense que quand le lecteur en est réduit à compter ça, c'est qu'il est pas intéressé par l'histoire. Donc, t'as beau mettre le bon nombre de boulons, t'as loupé ton coup.
Finalement, quand tu seras un vieux dessinateur établi, toi aussi, tu aimerais avoir tes disciples à former pour qu'ils aient le même trait que Jacques Martin. Que toi.
Non. Si, par contre, Je gagnerais du temps si j'avais un assistant qui remplissait mes zones de noir, ça pourrait être assez pratique, mais hyper chiant pour lui, je pense.
Et finalement, quand on fait le décompte de tous les genres de séries que tu as faites, en fait, il y a l'heroic fantasy qui manque. Et finalement, on pense à donjon. Et en fait, ton style pourrait tout à fait s'inclure dans les donjons. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que ça te plairait de travailler pour les donjons, en fait ?
Ouais, ça me plairait vachement de bosser sur donjon. Après, je pense que la file d'attente, elle est assez longue. Et puis, ils sont pas venus me le proposer. Mais j'en prends pas ombrage, hein, c'est pas bien grave. Non, mais il reste aussi la comédie romantique. Non, il y a encore pas mal de genres à explorer. Le péplum, la BD préhistorique. Enfin bref, non, il y a encore plein de possibles.
Junk tome 2, tu as mis un certain temps à le sortir pour des raisons principalement éditoriales. Quels sont tes projets actuels, les prochains albums à sortir ?
Alors si on arrive à m'entendre malgré la batoukada qu'il y a derrière. Alors les prochains projets, c'est Commando Colonial 3 avec Apollo, qui se déroulera, pour faire vite, ça sera un mélange entre le désert des Tartares et Fort Alamo. Sinon, j'ai un projet perso qui s'appelle Lorna, dont il y a les 50 premières pages qui sont visibles sur mon blog. Et ça, c'est un joyeux mélange entre Russ Meyer et John Carpenter. Enfin, en gros, tout ce que j'aime en cinéma bis. Et sinon, il y a un vague projet avec Fabien Nury sur la traite négrière.
D'accord. Bruno, merci beaucoup.
Bah, merci à vous.
Bruno, donc, qui est dessinateur. Oui, là, il y a eu un petit peu de son. C'est vrai qu'il y avait une sono qui s'est mise en route, en fait, qui était à 15 mètres de là où on prenait le son. Mais en fait, l'interview était tout à fait audible. C'est pour ça qu'on l'a quand même diffusé. C'est dommage quand même. Bruno, c'est quelqu'un qui a un trait qui est extrêmement reconnaissable. Donc, dans Junk, donc dans le tome 2 Payback, on retrouve son style graphique que l'on peut retrouver dans énormément de styles différents, hein, que ce soit sa parodie de Michel Vaillant ou... j'ai oublié ces autres séries.
Biotope. Commando Colonial
et Inner City Blues. Il est dans plein de genres et graphiquement, à chaque fois, on le retrouve avec. On n'est pas surpris, ça y va parfaitement. Donc, je sais pas quel est ton avis de ce côté-là. Si toi, ça t'énerve ou tu le trouves absolument génial et justement, ça t'énerve que tu puisses pas lui péter les bras.
Non, j'aimerais péter les bras à des gens dont le style graphique est vraiment quelque chose que je ne peux pas faire. Après, c'est vrai que le style de Bruno, moi j'adore, mais c'est vrai que c'est pas un style où tu vas te pâmer d'admiration devant en disant « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est costaud, combien de temps il passe devant les dessins ?» Après, son dessin est super synthétique et c'est ultra efficace. Et c'est vrai que la dimension second degré et un peu humoristique qu'il apporte par rapport à des scénarios qui sont quand même très premier degré, ça fonctionne vachement bien. Et... quand on a commencé à parler de bande dessinée là, dans le Super Long Weekend, pour moi la bande dessinée française était un peu has-been et justement Bruno m'a un peu réconcilié avec cette BD là.
Donc ça fait cool. Plaisir qu'en 6 ans tu aies tenu une autre opinion depuis.
Ah non, mais depuis le temps où je l'ai découvert, j'ai pas changé d'iota. Je me dis ah ouais, la claque. Et alors par contre, pour nos amis auditeurs, si en fait on a enregistré l'interview, on peut le dire, donc c'était samedi dernier, place du Cap, entre 19 et 20h, donc sachez que si vous baladez peut-être en ville, il se peut que vous tombiez sur nous en train de faire des interviews d'auteurs, donc voilà.
Oui, avec le porte-badge et tout, on s'est amélioré et tout ça. Junk, le deuxième tome s'appelle Payback, c'est chez Très Étrange et Nicolas Potier en est le scénariste. Bruno, donc le dessinateur, il était venu samedi dernier pour la dédicace à la librairie Gilbert Joseph. Et avant qu'on enchaîne et avant que j'oublie encore une fois, les séances de dédicace, d'abord il y a jusqu'à demain le festival Made in Asia, c'est le festival des cultures d'Asie. Tout le programme est sur festivalmadeinasia.com, tout attaché et sans tirer. Tout à l'heure en dédicace, c'est le bouquin qu'on va chroniquer, c'est L'honneur des Tsaroms de Paul Coué et Wilfried Lupano. Et n'oubliez pas que du 8 au 18 février,
c'est à Terre de Légende.
Voilà, c'est à Terre de Légende. Il y a l'opération Un coup de crayon pour Haïti, c'est sur le site de la Croix-Rouge belge. Donc vous tapez croix-rouge.be, vous allez sur le site supplementweekend.fr. Vous allez en haut à droite dans les chroniques, vous cliquez dessus et il y a le lien direct sur Coup de crayon pour Haïti où des auteurs ont donné des originaux. Il y en a qui sont très très beaux, il y en a d'autres, c'est des vraies découvertes. C'est un vrai plaisir. Midi et 20 minutes, on se fait peut-être une petite pause. Avec Emir Kusturica. Bon, merci le No Smoking Orchestra, maintenant vous pouvez sortir et quitter le parking et... C'était le...
C'est fini, oui.
Le No Smoking Orchestra d'Emir Kusturica, dédié Don't Ever Die on Friday. Chat blanc, chat noir, et c'est pour un bouquin qui est complètement délirant, dont les auteurs sont en dédicace tout à l'heure à la librairie Terre de Légendes à partir de 15h. Wilfried Lupano et Paul Coé, scénariste et dessinateur de L'Honneur des Tsarums, dont le premier tome s'appelle Cellule Familiale, au pluriel. Vous allez comprendre pourquoi pendant la chronique. Et qui sort donc dans la collection Néopolis chez Delcourt. Maître Sauzet est un jeune avocat inexpérimenté qui vient de se voir commis d'office pour défendre Loupna Tsarom, mère de famille d'un clan de gitans. Alors gros problème, en allant parler de la défense qu'il envisageait à son mari, il pensait pas se retrouver impliqué dans toutes les petites affaires de la famille, le business quoi, des broutilles. Les pièces détachées sont prises par terre, oubliées des fois par des engins qui passent. Les armes lourdes ont été dénichées sur le bas-côté et les armes de destruction massive trouvées par hasard dans une benne à ordures. Pas de quoi fouetter un chat, quoi. Là où ça se gâte pour le pauvre Sauzet, c'est qu'en plus du délit de fuite, eh ben, elle est très belle, Rona, la fille de Tsarom. Alors, c'est un space opéra complètement délirant, déjanté. Les auteurs décrivent ça comme un mélange improbable entre George Lucas et Emir Kusturica. Je ne suis pas d'accord. Le nomadisme a toujours existé et il est improbable que George Lucas n'ait pas fait de Yann Solo un vrai gitan. Je veux dire, la guitare accrochée dans le poste de pilotage, les couteaux planqués partout, une vierge fluo accrochée sur le rétroviseur et la caravane à l'arrière du Faucon Millenium. Non, c'est vrai quoi, ça m'aurait semblé tout à fait logique, hein, quitte à ce qu'il soit encore plus sympathique. Bref, l'honneur des Tsarom, c'est un gros pétage de plomb. On sent une série jouissive, iconoclaste et inventive, autant que Womox de Boulay et Renault, où c'était vraiment un gros pétage de plomb autour de Starship Troopers. Et ben là c'est la même chose, je vais dire, justement autour des camionneurs de l'espace. C'est à se pisser de rire. Ça fait vraiment du bien à son space opéra à lire un truc aussi délirant. L'honneur des Tsarom, le premier tome s'appelle Cellule Familiale. C'est de Wilfried Lupano et de Paul Coy, sont tout à leur en dédicace à la librairie Terre de Légende. Ça sort dans la collection Néopolis chez Delcourt. Tu me demandes si je vais pas, si on va pas tenter l'interview tout à l'heure. Non, je déconne. Ça serait un petit peu roots, ça. Là, on entame dans littéralement autre chose et je suis bien content que du sport soit là. Et malheureusement, il n'a pas encore positionné son micro pour que je puisse l'ouvrir, puisqu'il s'agit d'une adaptation d'une œuvre littéraire absolument majeure, à savoir Les Princes d'Ambre de Roger Zenalzi, une adaptation en BD. Hein ? C'est... Bah non, mais dans le jaune. Dans le jaune. Oh, mais qu'est-ce qu'il me fait ?
Non, le pied, il marche pas.
Le pied il tient pas là.
Oui, bah si le pied il marche pas, il est mal. Nicolas Jarry au scénario, Benoît Delac au dessin, et c'est donc une adaptation de Roger Zenalzi.
Zelazny.
Les Princes d'Ambre, le premier tome s'appelle L'Ombre Terre, et c'est dans la collection des Charges Futures chez Soleil, où ça commence par. Par Corvin. Corvin se réveille un matin dans une clinique complètement amnésique. Il tente de reconstruire sa personnalité et apprend que c'est sa sœur qui paie les frais et qui a explicitement demandé au personnel de le séquestrer. Il arrive à s'échapper et décide de suivre la seule piste qu'il ait. Sa sœur semble visiblement peu à l'aise dans sa présence et rapidement il est question d'une contrée ambre. Et dans la discussion, des images de guerre lui reviennent à son esprit. Mais c'est l'arrivée d'un autre frère, Random, qui va le plus l'aider. L'aider à trouver son chemin vers Ambre. Un univers dont on y accède par des routes détournées, où la réalité de la Terre se superpose à la réalité d'autres univers. Et où donc Corwin semble avoir un rôle d'exception. Et plus il approche d'Ambre, plus il est clair qu'il a une multitude de frères et de sœurs, et que sa fratrie semble être déchirée. Son retour ne ramènera pas la paix dans les familles. Alors voilà. Pour une fois, c'est vous de Ultimatum et du sport qui peuvent se foutre de ma gueule. J'ai jamais lu la saga. La saga Ambre, non, je l'ai jamais lu. Je suis désolé.
Moi non plus.
Donc vous imaginez bien toute ma difficulté pour juger d'une adaptation en bande dessinée d'une des œuvres les plus denses de la fantasy. Mais tant pis, passons ce handicap. Ils jouons comme le héros amnésique. Découvrons le multivers tel qu'il m'est présenté. Soit commence comme un polar qui verse dans le fantastique par touches subtiles qui altèrent la réalité. Graphiquement, il y a de bonnes idées de mise en scène et on sent que le dessinateur est très inspiré par l'histoire. L'aspect des planches n'est pas toujours très égal et ce qui aurait pu être un défaut s'exprime de pair finalement avec la multitude des lieux qui sont rencontrés. Et oui, on pourrait être déçu par le côté très jeté du dessin. On sent que certaines vignettes auraient mérité plus de travail, mais adapter la première série de 5 livres... Ce sera forcément plus d'une dizaine d'albums à cause de sa densité. Et on sent que le choix de vouloir réduire les délais de parution. Et là reste la question, celle qui gagne le lecteur qui connaît l'œuvre de réputation mais qui n'a jamais ouvert les écrits originaux. Mais qu'est-ce que je loupe, putain de bordel de Dieu ? Roger Zelazny, Les Princes d'Ombre, le premier tome s'appelle Ombre Terre. C'est pas le nom d'ailleurs de la première série, du premier tome de la première série, puisqu'il y a deux séries principales, une série par la suite qui a été faite, des romans autour, plus une trilogie et un autre bouquin qui se déroule avant, qui ont été repris après le décès de Roger Zelazny. Sans que l'œuvre de la tâche de Nicolas Jarry et Benoît Delacq va être absolument titanesque, parce que l'adaptation des Princes d'Ombre, c'est pas gagné. Donc le premier tome s'appelle L'Ombre Terre, c'est dans la collection Les Cherches Futures chez Soleil, et c'est pas très engageant graphiquement, mais l'histoire donne vraiment envie, et on aurait tort finalement peut-être de passer à côté. Alors, j'ai pub qui me dit vous êtes gentil, Coco, mais il est la demi. D'accord. Et si vous oubliez de mettre de la pub, forcément, ça marche pas. C'est un vieux classique de la bande dessinée, un classique signé Franquin, et le nom sous lequel il est édité, c'est Ouba, une histoire d'amour. Il vient d'être sorti chez Marsup Productions, mais vous trompez pas, en fait c'est un album qui est un redécoupage du Nid des Marsupilami, qui est une aventure de Spirou et Fantasio qui était paru en album en 1960, et je crois que c'était en 59 qui était sorti à l'époque dans Spirou. Et dans l'histoire originale, eh bien... Spirou et Fantasio vont voir une conférence présentée par Sécotine, qui est une entre guillemets collègue et qui porte un surnom de colle parce qu'elle colle vraiment trop au train de Fantasio, qui présente des images qu'elle a tournées du fameux Marsupilami dans son élément naturel. Ouba, une histoire d'amour, reprend uniquement les cases de l'histoire du Marsupilami, reproduite à la taille des planches originales et présentée dans un format à l'italienne. Point de mention donc de Spirou et de Fantasio de Sécotine, principalement pour raison éditoriale. Franquin avait quitté les éditions Dupuis en gardant la propriété du personnage qu'il avait créé. Donc, Marsup Productions avait le droit de reprendre les extraits de cet album en prenant uniquement les cases où sont présents le Marsupilami et aucun des autres personnages. On prend l'album et là, et ben on se prend une claque. Débarrassé de tous les éléments temporels, les images de Franquin ont rarement pris une ride. Sans une ligne de dialogue, tous les commentaires de Sécoutine ont été supprimés. L'intrigue est accessible à tout le monde, sans barrière d'âge ou de langue. L'histoire de la cour de Marsupilami, ben, c'est une histoire d'amour et en même temps les dangers de la jungle dont il se joue, comme les tigres et les piranhas. La naissance des trois enfants de Marsupilami et on se plaît à redécouvrir cette histoire qui finalement ne souffre absolument pas de ce remontage. Et on est étonné parce que elle a quasiment pas vieilli. Franquin, Ouba, une histoire d'amour, c'est sorti chez Marsup Productions pour la Saint-Valentin et on fond à le lire. C'est une belle histoire animalière et c'est une belle histoire pour les enfants. Thomas, lui, il s'y plonge avec retard.
Oui, c'est une aventure que j'avais pas lue. Enfin, si, je connais le Marsupilami, mais celle-là, j'avais pas lue.
Et t'aimes ou c'est trop mignon pour toi, t'en as ras-le-bol ?
Non, ça va.
Bon, non, je pensais que t'allais en avoir à le cul. Alors on y va. Le morceau de choix, la pièce de Tim Pilcher, la BD érotique Histoire en images.
Quelle transition !
Le deuxième tome, donc, vient de sortir. Non, il est sorti l'an dernier aux éditions Tabou, ouais. Qui a un éditeur spécialisé dans le porno.
Tu sais, entre le Marsupilami et l'érotisme, histoire de grande queue.
Voilà, exactement. C'est les propos qui tiennent. Hein. Moi, je suis absolument pas responsable, j'ai dit mon conducteur. Des années 1970 à nos jours, c'est le sujet du deuxième tome. Bon, allez, je vais être franc. Comme chaque année, quand je suis allé à Angoulême, j'ai pris mon sourire le plus niais et j'ai fait chauffer ma carte bleue chez un quelconque éditeur de bande dessinée grivoise. J'ai pris ce bouquin en disant « Allez, je vais m'instruire », le tout bien sûr sur le ton de la rigolade. Donc j'ouvre le livre, et là, je me suis instruit, littéralement. L'avant-propos d'Alan Moore est une garantie de sérieux. Vous pouvez pas imaginer à quel point. Parce que si on met de côté toutes les images grivoises et frivoles qui illustrent ce livre, si on se concentre sérieusement sur le texte sans se laisser distraire par ces filles fort proportionnées et ces garçons bien membrés, dessinés d'une manière peu habillée, on en apprend des choses. D'abord, le travail documentaire et historique de ce livre est incroyablement fourni. On vous a régulièrement parlé dans notre émission de la fameuse loi sur les publications jeunesse de 1949 qui existe en France et qui n'a pas été abrogée. Aux États-Unis, ce n'est pas une loi, mais un comité interéditeur qui a été construit pour éviter que le législateur ne vienne censurer les super-héros et autres archi... Enfin bref, vous voyez le style. Ce deuxième tome commence donc par la naissance du Comic Code Authority et notamment par le livre du Dr. Versman, La séduction de l'innocent, qui est sorti en 1954 et qui étayait son propos comme quoi les crimes violents dans les comics influençaient les enfants vers la voie de la délinquance. Le premier travail de cette encyclopédie est de remettre le travail de Westman dans son contexte et joue donc à des charges. C'est une première surprise, ce livre travaille en dehors des partis pris et en dehors, je vais dire, remet en sa place sur le contexte de la neutralité, exprime mieux pourquoi donc les propos de ce psychiatre qui a témoigné devant une comité du congrès ont été déformés, voire même ont été passablement amplifiés. Oh non, en fait ça... Oubliez, je vous êtes encore fait piéger par le propos, c'est bien une encyclopédie de la bande dessinée érotique, mais c'est sur les textes qu'il faut se concentrer, pas franchement sur les images. L'instauration du Comics Code Authority, c'est la chute de la maison des EC Comics avec toutes leurs histoires d'horreur, notamment les fameux contes de la crypte. L'arrivée de l'Underground qui mettra en place une nouvelle manière de distribuer de la bande dessinée aux États-Unis. C'est justement toute cette construction de cette économie qui est intéressante. La naissance du National Lampoon qui reprendra par la suite la formule de Metal Hurlant pour éditer Heavy Metal aux États-Unis. Puis l'abandon du cachet du Comic Code Authority, comment ça a commencé en 1970 avec Stan Lee qui illustre une histoire de commande sur la drogue qui donc a mis en scène des super-héros face à la drogue et qui ne pouvait du coup recevoir le cachet du Comic Code Authority même si c'était commissionné l'autorité en question. Bref, c'est plutôt passionnant. Et c'est justement le vrai abandon, d'abord par Marvel, puisque DC l'a abandonné en fait en 2001, pas avant. Ça a mis en place, je veux dire, les premiers jalons avec les propos sérieux comme Charles Burns, qui est l'auteur de Black Hole, Craig Thompson de Planquette, qui a eu le prix de la critique et dont on a parlé dans cette émission, Howard Cruz avec sa certaine histoire de l'homosexualité aux États-Unis, et surtout la constitution du Comics Book Legal Defense Fund, qui est une fondation qui s'attache à défendre les auteurs, les éditeurs, mais aussi les vendeurs. Et là, ça devient absolument délirant. C'est justement toutes les histoires de procès, toutes les histoires juridiques que l'on nous met sous les yeux et on est très surpris. Et on est très surpris pour différentes raisons. D'abord, bien évidemment, une bonne partie du livre, parce que là, on a parlé surtout des États-Unis, en fait, des années 60 à nos jours. Et une bonne part du livre est évidemment consacrée au monde en dehors des États-Unis, comme l'explosion de la manga sexuelle au Japon, malgré les règles de censure, et les particularismes comme le lolicon, le lolita complexe, le porno tentaculaire, qui en fait est une tradition au Japon, et le yaoi qui met en scène des homos, mais c'est à destination d'un lectorat féminin. Et bien évidemment, il y a une bonne part consacrée à l'Europe, notamment les réactions sur la proposition 28 instaurée par Margaret Thatcher qui interdit l'éducation, le débat et la promotion de l'homosexualité. Oui, oui. Le Royaume-Uni est revenu en arrière dans les années 80 par une bande dessinée qui, par une loi qui interdisait de mettre en scène les relations homosexuelles. Et c'est là où, quand on pense au Captain Jack dans Torchwood et tout ça, et ben on remet en perspective pourquoi il y a eu l'explosion du L-word et tout ça en Angleterre. Donc c'est aussi intéressant sur la programmation des séries télé, sur les romans et tout le reste. Il y a bien évidemment... Ça explique aussi pourquoi Alan Moore a fait l'introduction de ce livre. Il y a d'excellentes pages sur les dessinateurs et auteurs italiens comme Manara et Serpieri, la naissance de Metal Hurlant en France, en quoi elle a influencé la bande dessinée mondiale et pas uniquement aux États-Unis, la libération de la bande dessinée espagnole après Franco dans les années 80 et l'incroyable saga du procès des éditeurs de Nasty Tales. C'est à lire, on reste incroyablement étonné de se rendre compte que des éditeurs qui étaient complètement stone en se présentant devant un procès face au sérieux, face aux ligues de vertu, face au comité de censure, et pu s'en sortir. Et quand on lit ça, mais on se prend une claque, ça vaut tous les romans. Certaines anecdotes sont encore plus hallucinantes que les images d'illustration, c'est encore plus gros que ça, point de vue engin. C'est un travail documentaire riche, une somme historique pour le 9e art. Achetez-le, mais pas uniquement pour le dessin, surtout pour son texte très bien traduit. C'est instructif, et bien évidemment, c'est pas à laisser entre les mains des mineurs, mais vraiment entre adultes consentants.
Il faut être entre adultes consentants pour lire le bouquin.
À cause des dessins, je vais dire, vous pouvez pas le prêter à des adultes
pas consentants,
parce que ils vont se dire ah ouais mais c'est la BD frivole et tout etc. Mais passez les images. Lisez les images comme ça, ok. Une fois que vous les avez passées, lisez les textes, les notices biographiques et tout ça, et on se prend une baffe.
Alors, j'ai cherché Sambot, j'ai pas trouvé.
Il y en a plein qui sont... Parce que quand même, il y a 192 pages, mais c'est obligé d'être tassé, parce que voilà, on est obligé de laisser aux images une certaine place, volume graphique, hein, les gens l'achètent pour ça après tout. Mais les textes sont très bien traduits, très bien mis en situation pour le lectorat français,
je connais.
Et c'est un bonheur. Mais les textes sont gigantesques.
C'est écrit gros ?
Non, justement, c'est écrit assez petit pour pas que tu te laisses piéger par les images. Et puis, ouais, bah allez, je vais lire le texte. Et t'as des notices à chacune des images. Elles sont pas là, présentes par hasard. Raconte l'histoire, en fait, vraiment, du dessinateur ou bien des albums. Et tu te prends une claque. Et c'est vraiment un bonheur. Alors, je sais qu'à cette heure-ci, on n'a pas forcément le droit de parler de ce genre de livre.
Mais si, on a mis alerte cul, ça va.
Mais à mon sens, c'est un bouquin, justement, si vous êtes adulte et si vous voulez vous intéresser sur, autre chose que quand on parle de la bande dessinée, ouais, la bande dessinée de cul et tout, etc. Si vous voulez vous intéresser sérieusement, je vais dire, ben justement, à toutes les histoires de procès, toutes les histoires de censure et tout le reste, c'est hyper intéressant sur les auteurs, comment Manara s'y est mis, comment Serpieri travaillait, comment la bande dessinée... allemande, Ralph Koenig et tout le reste, c'est vraiment énorme. Il y a une bonne place qui est laissée à la bande dessinée homo et lesbien. C'est plus que, on reste vraiment étonné devant certaines histoires. On reste stupéfait. Je veux dire, c'est plus que le choc des images et le poids des mots. Les mots sont plus intéressants encore que les dessins. C'est dire si
le bouquin est intéressant. Non, mais les illustrations, bon, ça va, quoi, ça vaut le coup, parce que bon, bah, on arrive à voir les différents graphismes des différents auteurs et les textes. Ce qu'il y a de bien, c'est que bon, bah, j'ai feuilleté un petit peu. J'ai
en deux quelques... minutes, hein.
Ouais, non, mais ce qu'il y a de bien, c'est que bon, bah, c'est pas le pavé qui est chiant à lire et tout, avec des textes qui sont super longs et tout. C'est quand même assez succinct, on va dire. Hein,
Attends, tu as des colonnes en fait qui sont sur plusieurs pages. Hein,
oui, mais... oui, non, mais bon, ça va, quoi. C'est pas le gros pavé où bon, bah, t'es là, tu lis, tu dis bon, pff, ça va, c'est bon, quoi.
Ouais, je regarde les images.
C'est pas mal, quoi.
Mais moi personnellement, ça a été vraiment la grande découverte pour moi, Angoulême. La bande dessinée érotique Histoire en images, le tome 2 des années 70 à nos jours, c'est de Tim Pilcher, préfacé par Alan Moore. C'est édité aux éditions Tabou, qui sont spécialisées dans les BD porno et tout le reste, et BD érotique, hein, donc il y a du soft.
Ouais, enfin, c'est porno, quoi. Là, bon, ok. Hein.
Là, il y a de la pénétration, c'est clair.
Bah, là,
mais...
ça gicle dans tous les sens.
Donc vous aurez peut-être un peu de mal à le trouver en librairie, donc ça se trouvera en librairie spécialisée, en bande dessinée, je précise, et évidemment c'est pas exposé, hein, puisque je rappelle que Pasqua en 86 a fait passer des lois là-dessus, et il voulait pas d'images porno in vitro, il a dit stop, donc il n'y a pas d'exposition, mais ça vaut le coup, vraiment, procurez-vous-le. C'est hyper intéressant et ça se lit comme un roman. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. Voilà, une fois qu'on a fini de s'exciter sur les images. Thomas, toi, non, soit ça c'est de l'aise de marbre.
Ah, complètement, c'est pour ça que je vais te l'emprunter.
Moi j'aurais préféré le tome 1, tu vois. Franchement, quoi, parce que bon, bah ça c'est vraiment le.
Le tome 1, on imagine très bien, il parle des Tijuana Bebop.
Voilà, justement, quoi.
C'est-à-dire toutes les comics américains des années 1910 à 1950 qui étaient parodiés en version porno.
Ouais, non, parce que là, si tu veux, quoi, bon, bah ça commence à partir des années 60, c'est-à-dire à partir de ce qu'on a appelé la révolution sexuelle.
Voilà.
Et donc, il y avait eu tellement de non-dits, il y avait eu tellement de censure ou d'autocensure avant, hein, dans les années 60 et avant, hein, que cette révolution sexuelle a fait que d'un seul coup, ça a explosé de tous les côtés et qu'on a eu ce déferlement justement
éjaculatoire, oui,
de sexe, d'érotisme dans la bande dessinée et dans d'autres arts.
Mais il y en a eu de toute façon avant, puisqu'il y avait l'art petit bourgeois, il y avait des trucs. Voilà.
C'est ça, hein, c'est-à-dire la distribution avant était complètement différente. Hein, c'était sous le manteau, c'était des réseaux spécialisés. Voilà, alors que là, bon, bah ok, ça commence à être un petit peu grand public, hein. D'ailleurs, on remarque qu'en France, c'est au début des années 60 que ça a vraiment commencé, avec tout d'abord les francs-tireurs qui étaient Harakiri et toute la bande, et ensuite un prétexte un peu plus sérieux, hein, quand des gens également un petit peu la bande d'Harakiri avec Charlie Mensuel ont commencé justement à diffuser des bandes dessinées vraiment érotiques, hein, le Paulette de Pichard et Wolinski, des choses comme ça, où vraiment c'était des histoires qui parlaient vraiment de sexe.
Enfin, voilà, quoi.
Marara, toute la bande.
Il m'a littéralement scotché. Cette chronique était un petit peu longue, mais elle a été écrite vraiment en 4 vitesses avant de partir. Mais pour moi, ça me semblait tout à fait évident d'en parler, parce que c'est un bouquin sérieux. C'est un ouvrage sérieux. Non, faut en rester là-dessus. Midi 47, d'ailleurs, je vais arrêter là-dessus. Vous est présenté en Dolby Mono Surround Stéréo Couleur 3D 4D Relief et Popcorn par Thomas.
Ouais, pas trop popcorn aujourd'hui.
Ah,
alors
trop blanc, c'est ça?
Comment?
Trop blanc le popcorn. Tu préfères le maïs noir?
Oui, c'est ouais. Alors,
je l'ai pas cherché.
C'est quand le crunch? Le crunch, c'est quand?
C'est pas 16h tout à l'heure?
Non.
Non, 16h30.
Non, parce que le crunch c'est France-Angleterre, c'est pas France-Irlande, je vous ai eu.
Ah merde!
Alors, aujourd'hui, on part de rugby avec Invictus, le dernier film de Clint Eastwood, avec Morgan Freeman, Matt Damon et Scott Eastwood. Oui, c'est bien le fils d'eux, puisque, voilà, c'est au cas où vous demanderiez. Alors, le film commence en 1994 en Afrique du Sud. L'apartheid a été aboli et Nelson Mandela vient d'être élu président de la République après 27 ans de prison. Il tente de mener la grande réconciliation dans le pays entre la communauté noire et les Afrikaners.
Ça fait bizarre d'en parler. Ça fait 20 ans quand même qu'il en est sorti. Nous, on a vécu ça, mais vous pensez aux gens plus jeunes qui n'ont pas 20 ans et tout. Ils ne se rendent pas compte justement du pas historique. Ça a été la libération de Nelson Mandela et le fait qu'il ait été élu. Le pacte, ça a été énorme pour l'Afrique du Sud. Mais c'était pas fini. Et c'est justement ton intro.
Oui, ce qui frappe aussi, c'est qu'il y a à peine 20 ans qu'il y avait encore l'apartheid. Enfin bon. Donc Mandela de mener la grande réconciliation dans le pays entre la communauté noire et les Afrikaners, et afin de tendre la main aux blancs, eh bien quoi de mieux finalement que de soutenir l'équipe nationale de leur sport, qui est donc le rugby, par opposition au foot qui est plutôt le sport des noirs. Et cela tombe bien car la Coupe du Monde a lieu dans un an à domicile, et ça tombe mal parce que l'équipe nationale n'est absolument pas prête. Alors...
elle est pas prête hein, parce que il y avait justement cet embargo, mais enfin bon, aucune équipe n'avait le droit de rencontrer l'Afrique du Sud du fait de l'apartheid. Hein. C'est-à-dire que les nations, surtout l'International Board, avaient décrété que l'Afrique du Sud était équipe non grata et donc ne pouvait pas se mesurer aux autres équipes. Et on se rappelle également, enfin vous certainement pas, quoi, mais au début des années 60, ça a été la première tournée française d'une équipe, l'équipe de France en Afrique du Sud, il va jouer un match et ça avait fait vraiment énormément de bruit. Hein. On voulait virer la France du tournoi des Cinq Nations. Enfin, il y a eu pas mal de trucs parce que justement, ils étaient allés en Afrique du Sud pour jouer quoi.
Donc ça veut dire que l'équipe nationale sud-africaine n'avait pas eu d'opposition pendant.
Pendant
40 ans, 30 ans.
Ouais, tranquille. Voilà.
Alors, chaque film de Clint Eastwood, depuis les, grosso modo, on va dire les années 2000, hein, puisqu'avant, c'était quand même un réalisateur respecté, mais pas autant que maintenant, chaque film de Clint est attendu un peu comme un nouveau chef-d'œuvre.
Alors, il peut arrêter, il nous a tous détruits.
Oui, mais c'est surtout que, quel que soit le film, c'est ah oui, Clint Eastwood, ouais, la légende, nouveau film, c'est tellement bien. Alors voilà, est-ce que ça résulte d'une crainte générale des observateurs que chaque film soit le dernier, ou est-ce que le bonhomme il est subitement devenu une machine à faire du chef-d'œuvre et du multi-oscarisé? Déjà Eastwood, faut dire qu'il est né en 1930, alors il a 80 ans un peu. Faut dire aussi que les vieux réalisateurs sont décidément très prolixes, puisque l'autre papy qui est juste derrière lui, c'est Woody Allen, 75 ans, qui fait un film par an lui aussi, grosso modo.
Ah bah non, mais t'oublies Raoul Ruiz.
Raoul, oui,
c'est alors, plus Ruiz. De 90 ans.
Ouais, Raoul Ruiz. Il y avait Robert Altman aussi, mais voilà. Ouais, non, ils ont quand même la forme. Les films de Clint. Pourquoi ça fonctionne aussi bien? C'est parce que c'est quand même des films qui s'inscrivent un petit peu dans une certaine tradition. Classique de films hollywoodiens, c'est-à-dire plus du tout les films hollywoodiens de maintenant, ultra clippés avec de la musique à la mode et tout. Non, lui c'est vraiment du classique avec le petit morceau de jazz qui compose lui-même, un travail, mise en scène sobre mais super efficace, c'est-à-dire que c'est toujours invisible.
Non, c'est
par
Kyle
rapport...
hein, c'est son autre fils, c'est Kyle Eastwood.
Oui, mais
hein,
Kyle Eastwood, mais il co-compose la musique de ses films, sur Gran Torino. Je crois qu'il y a même une chanson où il joue, où il chante, je sais plus. Je crois qu'il y a une chanson où il chante à la fin qui clôt le film sur Gran Torino. Alors donc la mise en scène de Eastwood, elle est toujours sobre et elle sait se faire oublier mais jamais trop plan-plan non plus, donc c'est quand même efficace et voilà. Il y a toujours un important travail sur la lumière, puisque cette directive par rapport à son chef-op, c'est qu'il lui demande de travailler la lumière comme si c'était du noir et blanc. Donc il y a beaucoup de travail sur les zones noires, par exemple, dans l'image. Vous verrez, il y a de très beaux plans dans Invictus où les joueurs ou l'entraîneur sont dans l'antichambre juste avant d'entrer sur le terrain, vraiment dans le noir, avec juste des silhouettes qui se découpent. C'est très très beau, comme dans Million Dollar Baby, avec l'éclair obscur dans la salle d'entraînement de boxe.
On a également des histoires solides, souvent des adaptations de bouquins qui sont mises en image avec un certain sens du mélo et de grands sentiments. C'est-à-dire que c'est pas des petits films, mais quand même qui s'inscrivent dans une tradition hollywoodienne. Hein, donc on y va à fond, le grand sentiment, les caméras qui panotent. Bon voilà, ça te tire les larmes. C'est un peu le, on va dire, le défaut de Clint aujourd'hui, puisqu'il tire un peu trop sur le larmoyant, on va dire. Mais sans en faire trop finalement. C'est hollywoodien, mais juste ce qu'il faut pour avoir un peu d'émotion. Et il a toujours son fameux sens de l'humour. Alors évidemment, quand il joue dedans, bon, ça c'est la panacée, hein, puisqu'il s'octroie toujours un peu le même type de rôle, avec le gars revenu de tout, qui est un peu acariâtre. Finalement, à chaque fois qu'il sort une vanne, tu t'es mort de rire, ou tu le sors après un cours de récré ou au boulot le lendemain. Alors cette fois-ci, ça attaque à Nelson Mandela. Alors c'est vrai que dans la filmo d'Eastwood, c'est toujours des gars un peu bourrus, mais finalement sympathiques, et Nelson Mandela fait un peu une figure d'ange, si tu veux. C'est, dans le film, c'est juste un gars qui est sorti de 27 ans de prison, qui veut absolument faire la réconciliation, donc devant l'incrédulité de ses bras droits, de ses amis, en fait il dit non, il veut tendre la main, alors que tout le monde lui dit bah non, te préoccupe pas de ce sport de blanc.
Et puis surtout à l'époque, il y avait à l'ANC, il y avait une forte proportion de revanchards qui voulaient virer les blancs, les sortir, ce qui s'est fait par la suite au Mozambique. Donc il les tenait, hein, littéralement.
Oui, mais il y a des allusions à ça justement au début, puisque on voit d'abord la famille de François Pinard, donc le capitaine joué par Matt Damon de l'équipe nationale de rugby, où ses parents lui disent ouais, tu vas voir, ça va être comme le Mozambique, on va être chassé, on va être dépossédé de nos droits, ça va être la merde et tout. Et finalement, il y a une scène à un moment donné assez frappante où il y a ça se passe dans le mine, enfin par l'équipe du les dirigeants du rugby qui veulent justement virer les emblèmes de l'équipe nationale, virer le mot Springboks, et justement tout ce qui faisait justement l'apanage du sport de blanc, qui voilà, tout virer, et puis mettre nouveaux emblèmes, nouvel hymne, nouvelle façon d'appeler les joueurs. Et finalement, Mandela, il dit non, on va garder tout ça, parce que justement on va se montrer un peu plus au-delà de ce que les blancs avaient fait à notre rencontre pendant 30 ans, et justement on va garder le mot Springboks, on va garder l'emblème, etc. Et justement, il va y avoir quelques frictions au début, enfin des frictions, des oppositions idéologiques, on va dire. Et c'est ça, finalement, la partie la plus intéressante du film. C'est justement le début où il y a Mandela qui essaie de convaincre tout le monde qu'il faut s'intéresser au rugby, que ça va être le sport. En tendant la main aux blancs, on va leur prouver qu'il peut y avoir une harmonie entre les blancs et les noirs, et puis il faut surtout aussi intéresser les noirs qui habitent dans les bidonvilles à ce sport, justement en multipliant les tournées et tout. Donc c'est vraiment cette montée crescendo dans la passion pour le rugby qu'essaie d'inculquer Mandela, qui n'est pas du tout pro-rugby à la base. Et finalement, le fait d'avoir choisi Morgan Freeman aussi, qui incarne une espèce de nounours, hein, parce que c'était...
Ouais, mais c'est aussi parce que Morgan Freeman avait acheté les droits, en fait, hein, du bouquin de Mandela, et voulait absolument s'investir dedans, quoi, d'une manière ou d'une autre et tout. Et il a trouvé avec Eastwood un terrain d'entente pour justement pouvoir tourner ce film et justement adapter cette histoire.
Et à la base, Mandela avait dit que lui, il voyait qu'un seul acteur pour le jouer à l'écran, c'était Morgan Freeman et personne d'autre. Ouais. Donc ça tombait bien. Ouais, ouais. Eastwood avait déjà mis en scène Freeman dans Million Dollar Baby et dans Impitoyable. Donc bon, voilà, ils entendaient bien les deux gars. Alors justement, ouais, il y a quand même de l'humour dans le film, parce que vraiment les scènes assez drôles, mais assez amusantes au début, où il y a les bras droit de Mandela, donc qui l'accompagne dans sa marche de nuit et tout, quand il va faire son petit footing et tout. Et à un moment donné, ils sont dans le bureau de sécurité de l'équivalent de la Maison Blanche, le bureau présidentiel. Ils sont dans leur bureau, et puis là il y a les anciens services du SAS qui arrivent et tout. Et puis on voudrait voir machin, c'est moi, qu'est-ce que j'ai encore fait? Voici une lettre, en fait on est à votre service. Ah qu'est-ce que j'ai encore? Alors il dit bon, c'est signé Mandela, on est obligé de vous allez être on est à votre service, vous allez travailler avec nous. Alors les autres disent non, on peut pas travailler des blancs et tout. Donc le gars il ouvre la porte, il va aller voir Mandela et dit bon, c'est quoi ce bordel? Il y a des gars du SS qui sont là, qu'est-ce que t'as encore fait? Mais non, justement, cette lettre prouve qu'ils sont à mon service. Ah ouais, c'est vrai, c'est moi qui l'ai signé, travaille avec eux. Donc voilà, c'est plein de petits détails comme ça qui sont assez rigolos au départ.
Et voilà, donc comme je disais, il y a le côté nounours de Mandela, où vraiment Morgan Freeman il joue sur un petit peu la malice, puisque c'est pas, il va pas se la jouer autoritaire en disant bon, de toute façon c'est comme ça et puis c'est tout, vous allez travailler avec les blancs et puis vous fermez votre gueule. C'est plutôt
c'est le vrai caractère. Hein,
oui, mais Freeman le joue comme s'il s'amusait de voir la réaction des gens quand il leur dit ah ben non, il faut tendre la main et puis tu vas travailler avec eux, mais il te l'amène de façon avec beaucoup de douceur et tu sens que le personnage s'amuse en fait en annonçant la nouvelle à ses collaborateurs. Ensuite, ben on va arriver à la dimension rugbystique. Alors déjà par le capitaine François Pinard, puisqu'il est un peu au second plan par rapport à Mandela, donc c'est joué par Matt Damon. Au départ c'est juste un capitaine qui n'arrive pas vraiment à pousser son équipe vers le haut. Il va dans le film, ce qui est arrivé à Mandela va se creuser la tête pour savoir comment est-ce que je peux inspirer l'équipe, comment est-ce que je vais inspirer le capitaine. Il va lui faire un mot, il va l'inciter à aller visiter la prison de Mandela et tout. Donc ça, c'est vrai que ça va être un jeu d'inspiration entre les deux, où il y a Pinard qui va intéresser Mandela au rugby, et Mandela va essayer d'insuffler un petit peu son souffle qu'il avait fait tenir 27 ans dans une minuscule cellule. Et justement, il y a deux moments forts du film. Donc le moment où l'équipe de rugby va visiter les bidonvilles, vraiment là tu vois que tous les joueurs de l'équipe, à part Chester Williams qui était le noir de l'équipe, tout le reste c'était des blancs, donc ils découvraient un petit peu les bidonvilles, j'aimerais pas vivre ici. Et l'autre moment c'est la visite effectivement de la prison de Mandela. Alors là par contre Eastwood il en fait des tonnes, c'est, il multiplie les ralentis, les fondus, il visite la cellule, elle est vide, alors après t'as un fondu dedans, alors tu vois Mandela comme si Pinard est à côté de Mandela, ouais il devait être assis là, il devait casser les pierres là-dessus, c'est totalement inutile, juste les murs vides ça aurait suffi, mais là non, c'est vrai, il y va avec les gros sentiments. Bon, c'est un peu ce que je reproche.
C'est le mélo qu'aime bien les Américains de toute façon, hein.
Exactement. Et finalement, donc toute la partie où Mandela tente d'essayer de faire la réconciliation générale, ça fonctionne super bien. Le rugby, on sent que les Ricains n'y connaissent que dalle. Ils filment ça comme du foot US. Alors là, évidemment, c'est pas Oliver Stone avec L'Enfer du Dimanche où c'est super découpé avec 145 chansons à la BO. Non, là c'est du Eastwood, donc c'est pas... ça reste quand même sobre, mais alors si tu veux, chez eux le rugby ça se borne juste à faire du rentre dedans, on joue dans un petit périmètre, on se croise et puis c'est comme du foot US en fait, c'est du choc, des souffles et tout, alors que bon, le rugby c'est quand même le jeu au large, c'est les trois quarts visiblement ils savent pas ce que c'est, la largeur du terrain ils savent pas ce que c'est non plus. Bon, alors peut-être que c'est difficile à filmer, je sais pas.
Mince, format cinémascope, merde.
Ouais,
on aurait rêvé quoi, avoir d'une belle action avec la balle qui part, qui traverse de main en main
Mais en plus, comme il a choisi de cadrer assez serré, en fait, c'est vrai que c'est une mise en scène qui privilégie les chocs et le travail des avants plutôt que le travail des trois quarts avec le jeu au large. Alors, ça, c'est un peu dommage. T'as aussi des espèces d'énormités pour nous autres fans de rugby. Genre, à un moment donné, t'as l'engagement au pied. Bon, le ballon il fait pas 5 mètres, c'est une balle en cloche, mais c'est pas grave, il continue de jouer.
C'est un engagement de football américain.
Ouais, je sais pas. Non,
oui, on le balance. Du moment que la balle est tapée, en général, si le mec, c'est justement pas le quarterback qui a la balle à ce moment-là.
Non, c'est le kicker qui tape.
Voilà. Le mec, il shoot un petit peu sur le côté pour que ça soit un mec qui puisse se faire une.
Ouais, ben là, voilà. Donc ils ont vu ça comme du foot US. T'as à un moment donné des plaquages qui sont assez bizarres. Là, le gars, il lui plaque au genou, l'autre, il est propulsé en arrière, alors que normalement, il doit tomber à la verticale, tu vois. Bon. Ok. Après, les matchs, au début, tu dis oui, ils ont aucune chance de gagner. Ils battent les Wallabies pour le match d'ouverture. Il y a le match dantesque contre l'équipe de France, dantesque à cause des conditions météo, puisque c'était sous une pluie diluvienne. C'est un peu passé à l'as parce que pendant ce temps, il y a Mandela qui a une réunion de travail avec des Taïwanais, je crois. Donc il y a son collaborateur qui vient lui annoncer le score sur un petit papier. Bon, tu te dis. Bon, en même temps, c'est un film sur Mandela et la réconciliation nationale. Donc, bon, c'est vrai que ça fait chier un peu parce qu'on est français, qu'on aurait bien aimé voir des images, mais bon. Et après, là, c'est là que le bas blesse. parce que le match de la finale, je sais pas si moi j'étais devant mon poste à l'époque. Bon, la finale, il y a aucun essai. C'est juste que le suspense était assez grand parce que il y a eu des prolongations et que des.
Ouais, je crois qu'il a été joué qu'avec des pénalités.
Non, oui, voilà, c'était un duel de buteurs et justement, bah, Itsu prend le parti pris de filmer, d'accorder une très très grande place à ce match. Alors. Comme les gens, on se souvient, tout le monde sait comment ça s'est terminé, parce que sinon il n'y aurait pas le film. Tout le monde sait que John Alomu, il était super fort, mais qu'il était muselé par tout le monde. Mais Eastwood fait durer le truc, alors il dit « Oh là là, mais est-ce qu'ils vont réussir à museler John Alomu ?» Alors John Alomu est juste présenté comme une équipe à lui tout seul, hein. On voit que Lomu, si tu veux.
C'est l'inverse du rugby. Au football, ça passe, mais...
Même si c'était quand même un monstre médiatique, un monstre de puissance, voilà. Voilà, c'est le rugby à 15 quand même. Et franchement, tu dois avoir au moins 10 minutes de match à la fin franchement, c'est pas filmé avec un grand génie non plus. Il abuse des ralentis. Alors là, t'as le « Et je te fais le 150e ralenti sur le visage de Morgan Freeman qui dit « Oh là là, mais on vient de marquer, yeah, c'est trop bien !» a dit oui, quand est-ce que ça finit? Et finalement, c'est vrai que le traitement en creux du match, ça aurait été beaucoup mieux, c'est-à-dire un peu plus vu des tribunes, parce que bon, voilà, filmer un match avec un duel de buteurs, c'est tout sauf passionnant. C'est vraiment pour des gars qui auraient vécu, qui auraient pas du tout suivi, et ils savent pas pourquoi il y a le film, donc voilà, c'est pour eux un match aussi long, mais c'est vrai que c'est un peu dommage, parce que voilà, tu t'attends que ça finisse, et tu sais très bien quel est le propos, tu vois, voilà, l'Afrique du Sud est réconciliée, ils ont gagné, Mandela a sa petite casquette et son maillot... Bon, voilà. C'est pour ça que je dis que le film est un petit peu inégal de ce côté-là et un peu long, mais sinon c'est vrai que toute la partie politique et la partie vraiment, la partie crescendo où Mandela essaie de trouver un moyen vraiment de réconcilier les blancs et les noirs la montée en puissance de la passion pour ce sport, finalement c'est ça qui est intéressant. Après les images de rugby en eux-mêmes, bon, pas trop. Le travail impressionnant en musculature de Matt Damon, ça te laisse sur le cul.
Connaît le rugby.
tu le vois dans le vestiaire, la montagne de muscles que c'est devenu pour ce film. Super efficace. Bon, voilà, Invictus, ça reste quand même du Clint Eastwood. Donc même si c'est, je connais pas de gens qui soient pas fans de Eastwood. Malgré tout le fait que tu peux tout laisser passer à ce gars-là, tellement il a une sympathie énorme, ça reste quand même de l'efficace. Mais voilà, par rapport à d'autres films qu'il a fait, c'est vrai qu'Invictus est un peu en dedans, pas mineur, mais bon voilà, c'est quand même un film sympathique. Bon.
Invictus, un film pas très bien, enfin un match, excusez-moi, pas très bien mis en image par Clint Eastwood.
Mais non, c'est pas ce que j'ai dit. Voilà. Allez, Invictus donc de Clint Eastwood avec Morgan Freeman et Matt Damon, il est sorti il y a un petit moment, mais comme c'est du Eastwood et comme apparemment il a l'air de faire sa petite carrière, ouais, en pleine actu du tournoi. Il y a la Coupe du Monde en Afrique du Sud à cet été, donc voilà, il y a quand même une certaine actu. Et puis voilà, le film est encore à l'affiche, donc vous pouvez y aller. Voilà.
Et de suite, c'est une erreur de programmation, c'était prévu entre le porn et le sport, pardon, excusez-moi. Louis Armstrong, c'est si bon.
Love will say in France, when they thrill to romance, because it's so good. C'est si bon. Now I'll say it to you, like the French people do. Mama, it's so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's still, ooh, it's so good. Nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own till the rest of my days, Mama, I'll whisper your praise. Oh, c'est si bon.
Louis Armstrong dans le Supplément Week-end sur Radio FMR. Les scénaristes se suivent et se ressemblent, les héros s'en sortent toujours et on aime toujours ça, c'est la loi des séries.
Alors cette semaine, des séries, il y en a pas mal, hein. Que ce soit de l'inédite, que ce soit des nouvelles saisons, donc inédite également, hein, on a quand même pas mal de chance. Par contre, il va falloir faire un choix, certainement, parce que y a des horaires de programmation qui, bizarrement, sont les mêmes pour des séries différentes, sur des chaînes différentes, donc il va falloir faire des choix. La série de la semaine...
La pilule rouge ou la pilule bleue.
Ouais, la série de la semaine, c'est certainement celle qui sera proposée par Arte vendredi prochain à 20h35, et il s'agit de l'adaptation du roman policier de Henning Mankell, le suédois, et ça s'appelle Wallander, hein, son héros, flic, policier, un petit peu revenu de tout, désabusé, qui picole pas mal, enfin bon, on va dire, c'est pratiquement... quand on parle de ça, on se dit ok, c'est le cliché, hein, du vieux flic, du vieux détective privé et tout, avec toujours la bouteille de whisky sur le bureau, enfin bon, ok. Là, c'est traité un petit peu différemment. Il y avait déjà eu une série, mais suédoise, à propos de Wallander, hein, qui était vraiment excellente, hein, l'interprète principal, dont j'ai oublié le nom, était vraiment très très bon, qui était déjà passé sur M6 et aussi, me semble-t-il, sur Paris Première. Là, il s'agit de la version anglaise. La version anglaise, donc, avec comme interprète principal Kenneth Branagh. Qui fait son retour dans ce qu'on pourrait appeler une mini-série, car il n'y a que 3 téléfilms qui ont été tournés à ce jour. Mais Kenneth Branagh, il revient en force, parce que cette série a été coproduite par la BBC avec Kenneth Branagh, et bien a été couronnée cette année, hein, l'année dernière, pardon, par le BAFTA, c'est-à-dire l'équivalent des Emmy aux États-Unis, hein, BAFTA, de la meilleure série, donc pour Wallander. Alors, outre Kenneth Branagh dans le rôle titre, on a également David Warner qui joue son père. Bon, ça c'est toujours bon à prendre, hein, David Warner, et également sa fille, hein, parce que il a également des rapports un petit peu bizarres avec sa famille. Bref, c'est un petit peu zone. Mais par contre, en tant qu'enquêteur, hein, c'est vraiment top moumoute, quoi. Il y a pas de problème. Dans le premier épisode, dans le premier téléfilm qui sera diffusé vendredi prochain, eh bien Wallander va enquêter sur la mort d'une jeune fille qui s'est immolée en plein milieu d'un champ de maïs. Bon, ok, cherchez pas à comprendre. Bon, si, il faudra voir donc cette série Wallander sur Arte vendredi prochain à partir de 20h35. Ensuite, Dexter nous revient sur Canal+, saison 4.
Il est papouné.
Eh ouais, avec un petit bébé, vous avez vu les affiches partout, avec Michael C. Hall, bien sûr, hein, qui a révélé il n'y a pas longtemps qu'il avait le cancer, hein.
Ah.
Voilà, et qui a également obtenu le Golden Globe, un mois ou deux mois, hein, le Golden Globe, c'est...
Il y a une polémique comme quoi, justement, il l'aurait obtenu justement parce qu'il avait révélé qu'il avait le cancer et
ouais,
tout.
Ouais, bon, c'est un peu...
Voilà, exactement.
Hein, faut quand même pas déconner, quoi. Michael C. Hall, Golden Globe du meilleur acteur dans une série dramatique, donc pour son interprétation de Dexter Morgan. Et ça, ça passe donc sur Canal+, bien entendu, à partir de jeudi prochain, 20h45. Mais TF1 nous rediffuse Dexter à partir de la saison 1, c'est-à-dire on va pouvoir, pour ceux qui ont pas, qui ont loupé Dexter, qui ont jamais vu Dexter, eh bien c'est l'occasion de jeter un coup d'œil dessus. C'est simple, c'est vraiment bien, quoi. Il y a pas de problème. Hein, et donc TF1 vous le rediffusera le même jour, jeudi prochain, mais à 23h35. Bon, vu le ton et vu les images, hein, c'est toujours du moins 12. Généralement Dexter, parce que bon, c'est quand même relativement
sauf trash, c'est hein. pas passable en prime time sur une chaîne en clair, donc c'est pour et ça que c'est
voilà, c'est ça.
Enfin, sur TF1 c'est pas passable, donc
non.
Et TF1 va diffuser la série dans l'ordre.
Dans l'ordre, oui. Bah, là ils sont obligés, là, tu vois, là tu peux pas diffuser dans le désordre, hein. Sinon bah
oh, ils vont quand même tenter, allez.
Ouais, non, ouais, allez, ouais. Bon, non, mais peut-être que des petites coupes subtiles, tu vois, de quelques images.
Mais apparemment, enfin, ils avaient prévu de le passer l'année dernière, à peu près au même moment. Et TF1 s'est retenu pour une raison absolument inconnue. Et là, apparemment, ils se sont lancés, ils se sont dit, bon, on va profiter de la promo de Canal+, comme ça, les journaux vont dire, ah ouais, vous allez voir, la saison 4 est formidable.
Non, mais c'est
peut-être si vous avez manqué le début, vous l'avez en clair sur TF1.
C'est peut-être aussi dû au fait que Dexter était rediffusé sur Canal Jimmy.
Hein, oui, mais il diffuse que la saison 3. Hein.
Alors, dans cette série 4, eh bien, le fil rouge, il va être tenu par, bon, pas le bébé, non, mais par, eh bien, un tueur, un serial killer, hein, qui va donner du fil à retordre à Michael C. Hall, dans ses deux rôles, quoi, c'est-à-dire dans son rôle de analyste, c'est lui qui analyse les restes de sang sur les scènes de crime, ça c'est son boulot officiel. Mais bon, son boulot officieux, bien entendu, hein, ben, c'est de dégommer les gens qui méritent de l'être, quoi. Enfin bon, dans son esprit, bien entendu. Et ce tueur, ce serial killer, le tueur de la Trinité, est interprété par John Lithgow.
Ah, oh, oui.
John Lithgow, né en 45 à New York. Moi, je croyais qu'il était canadien, mais enfin, New York, c'est pas loin du Canada. Hein, John Lithgow. Et qui a une carrière tout à fait exemplaire, mais vraiment exemplaire. Hein. Il a commencé ses premiers rôles en 79, il est déjà dans All That Jazz, le film de John Foss, Palme d'Or à Cannes, en 79. En 81, il est dans Blowout.
T'es sûr 79, c'est Apocalypse Now, Palme d'Or.
80, alors. 80, d'accord. Oui, non, 80, oui, il y a le décalage d'un an, ouais, t'as raison, ouais, ouais. Apocalypse Now et Le Tambour.
Et Le Tambour, ouais, tout à fait.
Conjointement, les deux. Hein. 81, Blowout de Brian,
oui,
De Palma.
Ouais, il a fait pas mal de films de Palma.
83, hein. Il est dans le quatrième segment de Twilight Zone, la quatrième dimension, le film, hein, le truc dans l'avion, là.
J'ai pas vu.
Ah, excellent, hein, d'ailleurs, qui est un épisode de la série originale, hein, qui est, dans lequel c'est William Shatner qui interprète le rôle de, le même rôle que John Lithgow. Il est également dans Footloose en 84 et dans Bukaru Banzai.
Dans la 8ème dimension.
Ouais. Et c'est lui le papa dans Bigfoot, hein, Bigfoot et les Henderson. Comme ça a bien marché avec De Palma, il a fait un excellent tueur psychopathe dans L'Esprit de Caïn de De Palma en 92. Moi j'ai adoré ce film, hein, parce que John Lithgow est vraiment excellent dedans, hein. Il est très bon dans les rôles de méchants, ça y a pas de problème.
Oui, il a joué dans Obsession de De Palma aussi.
Ouais, dans Cliffhanger également, quoi.
Oui, tout à
c'est
fait.
Un des mecs qui cherche à dégommer.
Bah, c'est le chef des méchants.
Ouais. Et bien entendu, on se souvient un peu mieux de lui pour sa participation en tant que Dick Solomon dans Third Rock from the Sun, troisième planète après le Soleil, cette excellente série donc qui nous narre les aventures d'une famille d'aliens, enfin d'un groupe d'aliens qui viennent sur Terre pour se renseigner, savoir comment les humains vivent avant de pouvoir les envahir. Et donc ils vont se glisser dans la peau de gens de tout le monde et tout. Et donc John Lithgow lui interprète le rôle d'un prof d'université. Et bon, bah c'est à se pisser dessus de rire de début jusqu'à la fin. De toute façon, c'est une excellente série. Voilà, John Lithgow donc qui va apparaître dans la série Dexter sur Canal+, saison 4. Autre nouveauté sur Canal+, et là on est un peu plus circonspect. On va dire que peut-être qu'on sera un petit peu moins, on pardonnera un petit peu plus les défauts de la série, de ce remake qui n'en est pas un en fait, parce que les ricains n'ont pas aimé du tout.
Tu vas parler du prisonnier, toi.
Exactement, exactement. Le prisonnier qui débarque sur Canal+ à partir de lundi 20h45. Il n'y a que 6 épisodes parce que les ricains ils n'ont pas aimé et donc ils ont dit ok, on n'en fait pas d'autres.
Non, c'est la volonté depuis le début.
Oui, mais bon.
Avant la diffusion, ils ont bien dit que ce serait 6 épisodes point barre.
Ouais, non, ils voulaient quand même en faire plus, quoi, si ça marchait, quoi. Mais bon, ils ont vite vu que c'était même pas la peine, quoi. Donc.
Pourtant, Caviezel, McKellen.
Ouais, ça risque de le faire, y a pas de problème. Bon, alors le village, cherchez pas, ils sont pas retournés à Port Merion, laissez tomber, de toute façon, quoi.
Non, c'est les parties pris inverses, c'est-à-dire pas au bord de la mer, c'est dans un désert.
Dans un désert en Namibie.
Le village, c'est pas des trucs qui sont complètement délirant avec plein de styles architecturaux différents, c'est exactement même maison répétée.
C'est une maison triangulaire, c'est assez rigolo, hein, on dirait un village de vacances, quoi, un petit peu moderne. Quoi.
Et le rôdeur a gagné en volume.
Ouais, il est plus gros. Quoi. Et outre Ian McKellen donc, en numéro 2 et Jim Caviezel en numéro 6, on a également Hayley Atwell, Ruth Wilson et Lenny James. Alors, c'est vrai que le propos de la série est complètement différent parce que les auteurs ont voulu s'attacher à l'histoire contemporaine, y a le après 11 septembre qui est encore passé par là, hein, et peut-être que ça vaut quand même le jus, hein, de toute façon, quoi. C'est à voir sur pièce, hein, ça y a pas de problème. C'est Le Prisonnier donc, à partir de lundi 20h45 sur Canal+. Autre série qui n'a pas duré longtemps, mais là également c'était un parti pris, et c'était également dû au fait que la façon dont c'était tourné rendait un petit peu difficile le côté feuilletonesque. C'est tourné à la moitié à la manière d'un documentaire, ça s'appelle Generation Kill, et ça avait été déjà diffusé en première diffusion sur Orange, pas à la fin, hein, d'accord, ok. Ça va être diffusé sur Orange il y a à peu près 3 ou 4 mois, et là c'est sur NT1 qu'on va pouvoir le voir à partir de vendredi prochain 20h35. Alors il n'y a que 7 épisodes qui ont été tournés. Generation Kill, ça parle de quoi? Du quotidien de soldats qui pendant l'invasion de l'Irak. Donc c'est tourné d'une manière assez documentaire, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de fil conducteur, il n'y a pas vraiment d'histoire personnelle de soldat, elle me manque et tout, mais qu'est-ce qu'elle fait, enfin, c'est vraiment un petit peu plus brut, plus trash comme ça, quoi. Mais ça vaut son pesant de cacahuètes, avec dans les rôles principaux Alexander Skarsgård et Lee Tergesen, l'énorme Lee Tergesen,
Tobias Beecher,
dans Oz. Également le frère dans la série Une créature de rêve, le grand frère là.
Oui, il jouait aussi l'amant de Brie Van de Kamp dans Desperate Housewives.
Ouais.
Qui couche avec le fils d'ailleurs après.
Alors il y a également donc James Ransom, et il est également dans cette série avec Gary Cole qui est vachement bien là.
Si je cherche vachement bien Gary Cole dans Google, je suis pas sûr de tomber le bon.
Non, mais si tu cherches Gary Cole, toi, tu vas tomber sur une super liste, hein, c'est pas la peine non plus. Et il y a également James Ransom, donc pour Generation Kill, 7 épisodes seulement. Mais NT1 a dit que on va vous bourrer le mou à fond les manettes et tout, jusqu'à la nausée. 3 épisodes vendredi prochain à la suite, à partir de 20h35 sur NT1 de Generation Kill. It was the 3rd of June, another sleepy, dusty Delta day. I was out chopping cotton and my brother was baling hay. And at dinner time we stopped and walked back to the house to eat. And Mama hollered out the back door, y'all remember to wipe your And then she said, I got some news this morning from Choctaw Bridge. Today, Billy Joe McAllister jumped off the Tallahatchie Bridge. Papa said to Mama as he passed around... Nouvelle série inédite, mais pas récente, hein. Elle date de 2001. C'est une série qui sera diffusée sur Série Club, dans cette espèce de tranche horaire complètement pourrie où t'as autre chose à foutre que de regarder la télé. Dimanche 19h45.
Oula.
Et ça s'appelle Sordid Lives. Et en fait, ça se passe au Texas et ça raconte l'histoire d'un acteur plus ou moins raté de sa famille. Hein. Donc, on va suivre un petit peu les déboires de cette famille. Avec dans le rôle principal, et c'est là peut-être le seul intérêt en fait, dans un des rôles principaux, Olivia Newton-John. Ah yeah, mais elle a changé, elle a des années au compteur, donc c'est plus la même hein, que celle que vous avez pu apercevoir dans Grease. De toute façon, le premier épisode s'appelle Le jour de la mort de Tammy Wynette. Qui est Tammy Wynette? Bah, c'est la fille qui est en train de chanter là derrière. Quoi, tu
vois. Ah là là, trop fort le bus. Put a frog down my back at the Carroll County Picture Show. And wasn't I talking to him at the church last Sunday night?
Bon, vous avez reconnu la chanson quand même, hein, c'est une chanson hyper connue.
Ouais, elle était dans le top rock de la radio il y a 35 ans.
Non, non, bon, enfin bon, on connaît surtout la version française de Joe Dassin. Hein, qui s'est jeté du pont de la Garonne, alors que dans la version française, en fait, l'histoire, ben, c'est à propos d'une nana qui se jette du pont de la Garonne, hein, enfin, qui a connu quelque chose de trash, donc elle se balance du pont de la Garonne. Mais dans la version originale, si vous écoutez bien les paroles, en fait, Billie Joe, c'est pas elle qui se jette, mais c'est elle qui jette quelque chose. On ne sait pas ce que c'est, et au fur et à mesure de l'histoire, on commence à deviner ce que c'est, et bon, c'est vraiment très dur, quoi, en fait. C'est vraiment très très dur comme histoire, hein, puisqu'elle jette son enfant. Et c'est une chanson qui a eu un super succès aux États-Unis. La chanson est sortie en 67. L'interprète original, je ne m'en rappelle pas. Mais Tammy Wynette a repris ce titre la même année et a eu également le même succès avec la chanson. Voilà pour la petite histoire musicale. D'autres séries, mais qui sont des rediffusion.
Attends un petit instant, c'est la chanson originelle est de Bobby Gentry.
Bobby
Gentry,
sortie
en 67, voilà.
Voilà, Bobby Gentry. Et cette version également de 67. Hein. Mm. D'autres séries maintenant avec Weeds saison 4, donc inédite, qui démarre sur Canal+, bah, juste après Dexter, le jeudi à 22h30. On a également la deuxième saison de Californication sur M6 le vendredi, donc vendredi soir à partir de 23h10. Dont c'est écrit partout que cette deuxième saison est complètement pourrie, quoi, donc ouais, qu'elle n'a aucun intérêt.
Déjà, j'avais pas accroché à la une, alors.
Ouais, si, si, la une est bien quand même, quoi, ça va, c'est sympathique, quoi. Mais la 2, bon, bah ok, hein, ça commence à bien faire. Rediffusion pour les gens qui n'ont pas vu, hein, de cette bonne série britannique qui est un spin-off de MI5, Code 9, hein, qui est une série en 6 épisodes, je crois, ou 9 épisodes, hein, il n'y en a pas plus. Et c'est rediffusé à partir du début sur Série Club, ce soir à partir de minuit 25. Et en série, je vous ai encore une rediffusion d'une série que moi j'ai trouvé bien sympathique sur Paris Première, lundi à partir de 23h, c'est The Inside, avec Rachel Nichols dans le rôle principal et Peter Coyote, Adam Baldwin, qui racontent l'histoire d'une équipe d'enquêteurs, hein, qui sont chargés de résoudre des crimes particulièrement horribles. La particularité, c'est que même à l'intérieur de l'équipe, on est dans un climat très glauque. Les gens sont mal à l'aise. Il n'y a que Peter Coyote qui mène un petit peu le bal. Mais il a également des petits trucs un petit peu troubles. On ne sait pas exactement ce qu'il a fait avant. C'est très glauque. Hein. C'est bon, les images sont très noires. C'est toujours dans l'ombre. La plupart du temps, ça se passe la nuit, le soir et tout. C'est une série assez intéressante, hein, quand même, sur un sujet qui est déjà vu, revu des centaines de fois. Mais la série vaut quand même le coup, donc jetez-y un petit coup d'œil. The Inside sur Paris Première à partir de lundi 23h. Alors, du film à présent, avec ce soir sur France 3. À 22h30, Délivrance de John Boorman. Bon, allez, vas-y. Hein, sur RTL9, à 20h35, ce n'est pas un western. Ah, c'est un film de guerre.
Ce n'est plus Sabata non plus.
Non, c'est La Bataille pour Anzio. Avec, comme d'habitude, le casting qui tue, Robert Mitchum, Peter Falk, Robert Ryan. C'est un film d'Edouard Mitrick, qu'il a réalisé en 68, la même année que Chalaco, un western. Donc Edward Mitrick, qui est un réalisateur américain, hein, bon, d'ascendance européenne, ça c'est sûr, hein, parce qu'avec deux Y dans son prénom, laisse tomber, quoi. Mais qui a quand même fait quelques films sympathiques, surtout dans la case western. Et également dans la case polar, c'est lui qui fait la première version de Adieu ma jolie, ou Adieu ma belle en français, dans la version qui était sortie à l'époque en 44, Murder My Sweet, avec Dick Powell et Claire Trevor, hein, donc tiré des bouquins de Chandler. En 52, il fait The Sniper avec Adolf Menjou. En 62, Walk on the Wild Side avec Barbara Stanwyck. Ouragan sur le Ken, bon, c'est pas un polar qu'il avait fait en 54. Bref, c'est un des bons, hein, de toute façon. Et c'est également un des réalisateurs borgnes qu'a connu Hollywood, avec Raoul Walsh, entre autres, quoi. Mais bon, hein, il avait l'œil quand même, quoi. Il n'en avait qu'un, mais il avait l'œil quand même. Ciné-cinéma frisson, toujours ce soir, à 22h30, le retour de Sherlock Holmes, de Kevin Johnson, en 93, avec Anthony Higgins et Debra Farentino. Et ça, c'est un film qui est intéressant. Surtout pour l'adaptation qui est faite du mythe de Sherlock Holmes, parce que c'est un Sherlock Holmes contemporain. En fait, c'est on va dire un des descendants de Sherlock Holmes, hein, qui se retrouve à traquer des trafiquants de drogue qui en fait sont également des descendants de l'ennemi intime de Sherlock Holmes, à savoir Moriarty. Donc ça se laisse regarder, c'est assez agréable quand même. J'avais vu ça il y a quelques années. Et bon, ça m'avait assez bien plu, quoi, de toute façon. Donc le retour de Sherlock Holmes ce soir 22h20 sur Ciné Cinéma Frisson, avec Anthony Higgins et Debra Farentino. Sur Cinéfix ce soir 21h, Alien Invasion de Kevin Tenney en 2002, avec Eric Roberts, Arnold Voslow et Jonathan Rhys Davis. Et c'est tout pour ce soir. Demain sur Paris Première, Sherlock Holmes le Ciné 4. Ça c'est la série canadienne, donc, avec la paire Matt Frewer et Kenneth Wilson. Le Ciné des 4, je rappelle, c'est la deuxième histoire de Sherlock Holmes. Il y a un deuxième téléfilm à 22h05 demain sur Paris Première, Scandale Royal, également avec Matt Frewer et Kenneth Welch. Le réalisateur est Rodney Gibbons, et c'est donc une série qui date de 2001. Sur NRJ 12 demain soir, c'est un spécial Charlot, avec à 20h35 Anoukatre Cardinal, et qui est suivi à 22h15 par les 4 Charlots Mousquetaires.
Ouais, sur diptyque sur les Mousquetaires, alors.
Voilà, c'est ça, sur les Mousquetaires Charlot. Charlot, oui, Mousquetaire. Oui, oui, sur Ciné Cinéma Club, ça va plus te plaire. À 20h40, Bronco Billy de Clint Eastwood. Alors, c'est assez marrant parce qu'ils ont foutu une soirée Clint Eastwood avec deux films. Pas de Clint Eastwood, le premier Bronco Billy est de Clint Eastwood, mais les deux, il y a les mêmes interprètes dedans, quoi. Parce que dans Bronco Billy, outre Clint Eastwood, il y a Sandra Luke, qui était sa femme à l'époque, Geoffrey Lewis, et à 22h35, Sava Cognier de Buddy Van Horn, le film de Castagne, là, avec Clint Eastwood, Sandra Luke et Geoffrey Lewis également. Ah ben voilà, hein, comme quoi, on ne change pas une équipe qui gagne. Et deux films, le premier de 79, le deuxième 80. Donc pas de problème, ça roule. Lundi sur Arte, Les Fraises Sauvages, un des très très bons Bergman en 57, avec Ingrid Tulin, Bibi Anderson et Max von Sydow. Sur TV5 Monde, là on est dans la case cinéma d'auteur, tu vois, dans la case ciné-club. TV5 Monde, donc lundi 21h, ce jour-là, un film de Raoul Ruiz de 2003 avec Bernard Giraudot, Elsa Zilberstein et Jean-Luc Bideau, l'histoire d'un tueur en série qui débarque et qui va draguer une nana en Suisse. Mais bon, hein, c'est ça plaît. Sur Sci-Fi à 20h45, ça c'est une belle bouse, ça a l'air. Orage virtuel de Terry Cunningham en 2002 avec Nick Cornish, Vanessa Marsil, ben, qu'on a vu dans Las Vegas, bien sûr. Et également Bailing, Adrian Paul et Tonlock dans cet orage virtuel.
Ah ouais, là quand même. Hein.
On pourra peut-être préférer TV Braise, qui nous diffuse lundi, à 20h40, KO de Tony Giglio avec Jason Statham, Ryan Phillippe et Wesley Snipes. Ça dépote de tous les côtés et tout, mais c'est quand même vachement sympathique. Hein. Bon, ouais, j'ai regardé la deuxième partie.
Il y a un twist final.
Ouais. Non, mais ça va, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal, quoi. Franchement, c'est nettement mieux que Les Transporteurs, quoi, moi je trouve. Hein.
Ah bon?
Ah ouais, je trouve. Hein. Ah ouais, franchement, quoi. Ouais. Moi, je préfère les films un peu pourris comme ça, quoi, tu vois, quoi. Ou bon, bah, ok, quoi, il n'y a pas de. Hein. Sur TCM, lundi, toujours à 20h40, Feu croisé, encore un Dmitrik de 47, dont le titre original est Crossfire. Là, ils sont pas. Avec trois Robert pour le prix d'un, Robert Young, Robert Ryan et Robert Mitchum. Ouais. Suivi à 22h05 d'un des excellents westerns de Delmer Daves, qui est pas vraiment. C'est un western, ils sont tous en chapeau, il y a des, ça se passe dans l'ouest et tout. Mais le sujet est complètement différent. C'est ça qui est vraiment bien dans ce film. La colline des potences avec Gary Cooper, Maria Schell en jeune aveugle et tout. Carl Malden, George C. Scott et tout. Il est excellent, excellent, excellent. La colline des potences de Delmer Daves, c'est lundi sur TCM à 22h05. Et sur Polar également, deux bons films. Tout d'abord, à 21h, Barbe Bleue de Edgar J. Ulmer en 44 avec John Carradine, le papa des autres, et Gene Parker dans le rôle d'un. On revisite un petit peu le mythe de Barbe Bleue, et puis bon, bah, ça donne quoi ? Un serial killer en fait, hein, et ça se passe en plus à Paris. À 22h15, rediffusion du Chien des Baskerville dans la version de Paul Morisset de 78, dont je vous avais parlé la semaine dernière, avec Peter Cook, de Demour et Denholm. Elliot, mardi on a sur Paris Première à 22h30 Maîtresse de Barbet Schroeder avec Bud Ogier, Depardieu. Je sais pas si tu as vu ce film, mais
non.
Là on parlait d'érotisme et de sexe avant. Là, dans ce qui est bon, bah, hein, les relations un petit peu trash, sadomaso et tout, il y va franco. C'est du moins 16. Bon, ok, hein, c'est pas du porno, mais c'est très très près, vraiment très très près, avec l'interprétation de Bulogier qui est magistral, et Depardieu très jeune encore à l'époque, hein, mais qui tire assez bien son épingle du jeu de toute façon. Hein. Non, mais bon, sans jeu de mots, ça lasse là, mais vraiment c'est un climat très spécial, hein, pour ce film de Barbet Schroeder. Sur W9, mardi à 20h35, X-Men 2, ouais, sympa quoi. Ouais, bon, c'est le meilleur des trois, hein, de toute façon. Et sur Polar, alors on parle de ouais, C-117, ah, ouais, le héros du fleuve noir et tout. On a oublié l'autre qui était aussi célèbre que lui à l'époque, Copland, bien entendu, agent secret FX-18. Et là, c'est la version cinématographique de Maurice Cloche en 64 avec Ken Clark, Christina Gaioni et Amédée Domenech, que je sais même pas si c'est le rugbyman, tu vois. Mais je crois que c'est lui, en fait, quoi. Mercredi, sur RTL9, à 20h35, La Mutante 2 de Peter Medak avec Michael Madsen et Marc Helgenberg, ainsi que Natacha. Hein. Sur NT1, le mercredi, sur NT1, c'est quoi ?
Ah, c'est de la bouse.
La bouse de la semaine, ouais. Avec Attack Force de Michael Koch, Steven Seagal et Lisa Lovebrand en 2006.
Ah, du Steven.
Suivi de Sanction Fatale de John Terlecki avec Christy Swanson, notre choupette favorite, Michael Madsen, Ron Perlman, Tiny Lister Jr. Ah bah quand même, hein, ça en jette quoi. Sinon, sur 13e rue, mercredi prochain, Les Mystères de Sherlock Holmes, donc de Paul Marcus. L'épisode s'appelle L'Empreinte du Photographe avec Ian Richardson et Charles Edward. Sur Sci-Fi, bah, on en parlait, Bigfoot et les Anderson de William Deer en 87 avec Kevin Peterhall, John Lithgow et Melinda Dillon. Sur Ciné-Cinéma Frisson, mercredi prochain, 20h40, L'Antre de la Folie de Carpenter avec Sam Neill. Sur Ciné-Cinéma Classique, mercredi prochain, 20h40, La Flûte Enchantée de Bergman. Celui-là, il est bien, quoi. Là, c'est l'adaptation de La Flûte Enchantée de Mozart, hein, mais là... tu tombes sur le cul, quoi, parce que bon, on sortait de la période Bergman que moi j'ai trouvé un peu chiante, crier chuchotement, là, tout, et l'autre, je
m'en rappelle pas comment ça s'appelle. Toute la période noire.
Non, c'était les films en couleur, là, maintenant. C'est 60, là, ça date de 75, là, quoi, tu vois. Mais La Flûte Enchantée, là, ça te laisse un petit peu sur le cul. Vaut mieux le voir dans une salle de cinéma avec une bonne sono, tu vois, en plus, quoi. T'en prends plein les mirettes, quoi. Enfin, faut aimer Mozart, hein, aussi, quoi. Sur TCM, mercredi prochain, 20h40, encore une Palme d'Or à Cannes, Missing de Costa Gavras avec Jack Lemmon, Sissi Spacek et John Chi. Eh ouais! Et sur Polar, Mirage, encore un Edward Dmitrik en 64 avec Gregory Peck, Diane Baker et Walter Matthau. Là, c'est un film d'espionnage. Jeudi sur Arte à 20h35, Blue Velvet de David Lynch, ouais, avec McLachlan, Rossellini, Dennis Hopper, Laura Dern. Excellent, très bon film. et c'est suivi à 22h30 d'un documentaire sur Isabella Rossellini, My Wild Life. Isabella Rossellini, qui est donc la fille de Roberto et de Ingrid Bergman. Voilà.
Et qui est l'ex-femme de Lynch.
L'ex-compagne de Lynch, mais l'ex-femme de Scorsese. Ils étaient mariés aussi. Avec Scorsese.
Eh ben.
Mais ils n'étaient pas mariés avec Lynch.
Ça va, passer de Scorsese à Lynch.
Ouais, bon, on l'a vu pire.
Oui.
N'est-ce pas, Emmanuel? Non, bon.
Emmanuel Signé Non.
Bah ouais.
Ouais, eh oui. Pourquoi elle est pas. Elle est... Maintenant, c'est Polanski. Avant, c'était qui?
Bah, avant, c'était Polanski aussi.
Bon, d'accord.
Laisse tomber. Laisse tomber. Paris Première.
Those jokes by the dust.
Paris Première. T'as de la chance hein, quand même quoi, parce que bon, je savais pas que tu programmais Eastwood cette semaine, tu vois quoi, t'as de la chance, il y en a quoi. Paris Première vous fait une soirée Eastwood jeudi prochain avec à 20h35 moi, un film que j'aime bien, De l'or pour les braves de Brian Newton avec Clint Eastwood, Telly Savalas et Donna Sutherland, une bande de soldats américains qui sont en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale et tout, et qui reçoivent des confidences d'un prisonnier allemand comme quoi les Allemands sont en train de convoyer plein de fric et tout quoi, et donc ils décident de mettre la main dessus et tout pour se faire du pognon quoi. C'est sympathique et tout, puis bon, avec la triplette Eastwood, Savalas et Sutherland, ça vaut vraiment le coup. Et c'est celui d'un autre Eastwood qui là à l'époque quand j'avais vu à sa sortie cinéma m'avait laissé une impression de malaise bizarre comme ça, parce que bon la fin est un petit peu on va dire on sait pas trop à quoi s'attendre. Ça, c'est La Corde Raide, Tightrope de Richard Tuggle, avec donc Clint Eastwood dans le rôle titre, Alison Eastwood sa fille, Geneviève Bujold et Dan Hedaya, une histoire de crime sado-maso et tout,
et puis on sait pas si c'est lui coupable,
à la fin
c'est ça,
tu sais pas si c'est lui quoi, tu te demandes quoi, vraiment quoi, c'est le, t'as un truc, ça reste en suspens comme ça quoi. Et bon, durant tout le film pratiquement, bon bah ok, t'as une espèce de climat un petit peu nauséeux, malsain comme ça quoi, c'est vraiment très très bien. Et là Eastwood, bon bah ok, comme pratiquement à son habitude, bon, il était encore un petit peu dans son rôle de Harry hein, donc le mec monolithique et tout, là je fais mon truc et tout, mais vers la deuxième partie du film ça commence à dévier quoi, on sait pas trop, mais c'est vraiment un film vraiment, vraiment très très bien quand même hein, de Richard Tuggle, parce que justement on retrouve Eastwood dans un rôle dans lequel il est pas trop habitué, si ce n'est c'est un privé, c'est un flic qui va devoir résoudre une enquête, mais ça vaut le coup quand même quoi. Sur cinéma classique jeudi prochain 20h40, L'homme au masque de cire, le film House of Wax, donc avec Vincent Price et Caroline Jones, d'André de Tote en 53, et sur TCM, L'Empire du Soleil de Spielberg avec le jeune Christian Bale qui allait être promis à un avenir somptueux. Alors on y trouve également John Malkovich et Miranda Richardson. Vendredi sur Canal Plus à 20h50, un film que tu as programmé il n'y a pas si longtemps que ça, quand il était sorti l'année dernière, LOL. Donc c'est pour ça que j'en parle. Sur RTL9 à 20h35, Karate Kid 3 de John Avildsen. Il faut dire que ce mec il est tombé vachement bas, Avildsen, parce que c'est quand même le mec qui réalise le premier Rocky, quoi. C'est lui. Hein, il avait fait Joey là avant, qui était vraiment un film magnifique. Et bon, bah, au fur et à mesure des années, il se retrouve à faire des ressucés de films. Bon, bah, ok. Avec toujours les mêmes, hein, Karate Kid 3, le regretté Pat Morita et Ralph Macchio, bien sûr. Et à 22h35, Risque Maximum de Ringo Lam avec JCVD. Et Jean-Hugues Anglade.
Et Natacha,
bien sûr.
Natacha.
Bon, enfin bon, hein, elle est vraiment faire valoir dans le film. Quoi,
ouais, mais disons qu'elle aime bien faire certaines choses dans des bars. Hein, dedans. Non,
ouais,
c'est dans
bon.
Le bar ou dans la banque aussi, je crois.
Alors vendredi prochain, on a également sur Syfy à 20h45 Le Voyage Fantastique de Sinbad de Gordon Hessler. C'est pas la version avec les trucs de Harryhausen, hein, c'est pas les 7 voyages de Sinbad, la version de fin des années 50, début des années 60, c'est de 73 avec John Philip Lowe dans le rôle titre et Caroline Monroe, une des Scream Queens feu de Dieu avec Barbara Steele, hein, Caroline Monroe. Hein. Et dans le deuxième, sur Syfy à 22h30, Sinbad et l'œil du tigre de Sam Wanamaker en 76.
Ah, bah, on est toujours dans Rocky, c'est bien.
Patrick Wayne comme interprète et Jane Seymour. Dr. Quinn, femme médecin, bien sûr. Sur Ciné Cinéma Classique, vendredi prochain, Missouri Breaks de Arthur Penn avec Marlon Brando, Jack Nicholson et Randy Quaid, excellent western. Et à 22h05, deux films d'un réalisateur japonais dont le prénom K, donc on va dire Kinji ou Keiko, ou je sais pas quoi, Okamoto. Samouraï avec Toshiro Mifune, Keiju Kobayashi, filmé en 65, suivi à 0h45 de Kill, la forteresse des samouraïs, toujours du même Okamoto, 3 ans plus tard en 1968. Et je termine avec TCM qui vous programme Chantons sous la pluie de Gene Kelly et Stanley Donen avec Gene Kelly et Debbie Reynolds, ainsi que sur la chaîne Polar, La Clé. J'en parlais la semaine dernière, les films de Roy William Neal en 46 avec la paire Basil Rathbone et Nigel Bruce, Sherlock Holmes et le docteur Watson. Donc c'est sur Polar vendredi prochain à partir de 21h. La clé, donc un petit Sherlock Holmes des années 40.
13h44. J'ai tenté là de faire les copies du programme en cours. Il n'a pas voulu, bon, bizarre. Thomas, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire un résumé pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route ?
Oui, nous avons eu entre autres une interview au Techno Dance Junkie de Bruno. On a eu de la BD de cul, des nomades, du rugby bourrin chez les Sudaf, du borne qui a l'œil, du sport préfère les films un peu pourris, des Robert, du quasi-porno ou en tir, son épingle du jeu, le retour de Choupette et de la bouse des classiques et... joueuserie en pagaille.
Nom de nuggets de Cupidon, ils ont manqué tout ça. Ah, oh, pas possible, il y a des gens qui nous suivent encore en FM, mais heureusement, grâce à la diffusion différée, tu peux réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver des chroniques écrites, comme par exemple celle sur sortie cette semaine, Les Passagers du Vent, Gainsbourg Vie Héroïque, les photos de la remise du prix Actua BD, Conseil Général des Jeunes, la Charente, c'était il y a 15 jours en direct dans cette émission, ou la bio de Shutter Island, donc ça c'est du sport et c'est tout à l'heure à partir de 14h, et plein d'autres choses. Pour cela, c'est très simple, il suffit d'aller sur le site internet de l'émission, suppléments-weekend.fr. Vous pouvez en plus nous laisser vos questions et toutes vos conneries. N'hésitez pas, suppléments-weekend.fr sans accent ni tiret. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz. Nous sommes en direct en alternance avec Booster FM. Dans le prochain épisode, je ne sais pas encore, mais bon, il y aura du lourd. Promis juré, on va faire un grand coup de gong avec Davy Morier, peut-être. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même fréquence. Bye bye.
Ciao.
Et faites attention, le ski, c'est bien beau, mais à la télé, on risque pas de se péter une jambe.